Bienvenue à Women on the Line, une émission radicale et intersectionnelle d'actualité qui donne de la place aux voix des femmes et des personnes de genres divers. Produite par 3CR Community Radio à Nam, Melbourne, et diffusée sur leur Community Radio Network. Je m'appelle Phuong Tran. Women on the Line reconnaît que cette émission est produite sur les terres du peuple Wurundjeri de la Kulin Nation et que leur souveraineté n'a jamais été cédée. Nous rendons hommage à leurs aînés passés et présents, ainsi qu'aux gardiens traditionnels des terres depuis lesquelles vous nous écoutez. Cette terre a toujours été et sera toujours une terre autochtone. Cette semaine, dans notre émission, nous donnons la parole à quatre femmes de Kanaky, dites Nouvelle-Calédonie, qui se sont récemment rendues en Australie pour une tournée de conférences organisée par Free Kanaky Solidarity Nam. Aujourd'hui, nous allons écouter Farah Kayar, Sonia Tonia, Doriane Nomoira et Marie-Claire Cachot. Elles nous livrent leurs réflexions sur le mouvement féministe autochtone en Kanaky, la lutte simultanée pour l'indépendance et les droits des femmes, les répercussions persistantes de la colonisation française, ainsi que le rapport des peuples autochtones à la terre.
Bonjour à tous et toutes. Je suis Farah Kayar, je suis une femme kanak du pays Néngoné. C'est une des îles Loyauté qui est reliée, on va dire, politiquement. On est séparés par la mer, mais à la grande terre qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie et qu'on revendique aujourd'hui en tant que pays Kanaky, puisque c'est un pays qui appartient aux Kanaks et qui a été... on va dire spolié, volé depuis 1853 par l'État français.
Bonjour, je suis Sonia Tonia. Je suis originaire d'un petit village qui s'appelle la tribu de la Conception. Mais je fais partie du... Mon clan est un clan survivant de la colonisation et a subi donc la spoliation de ses terres. Mais aussi, nous sommes les rescapés d'un génocide organisé par la colonisation. Et je suis née aussi dans un mouvement, une organisation de femmes autochtones catholiques qui a d'abord débuté il y a 55 ans, en 1971. Et voilà, donc au début, c'était pour la prise en compte de l'hygiène. On travaillait beaucoup sur l'hygiène, sur l'environnement de la famille, etc. Et petit à petit, j'ai découvert le féministe. Donc d'une organisation féminine, je suis passée à j'ai créé moi-même une organisation qui porte le féministe en Kanaky, et nous sommes en train de porter donc le féministe décolonial pour la Kanaky pour accompagner la libération de notre pays.
Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Doriane Nomoira, femme kanak et féministe du pays kanak. Je suis originaire de la région Khanatu. Je vais peut-être ajouter avec mes deux mamans ici là que on agit aussi en solidarité avec nos peuples frères, Ouest Papoua, les peuples mélanésiens, les peuples qui aujourd'hui sont dans les mêmes combats face au système colonialiste, impérialiste et extractiviste qui gouverne ce monde.
Donc je m'appelle Marie-Claire Cachot, je suis originaire de la région de Khanatu. Je suis entrepreneuse et formatrice dans le domaine de l'accompagnement pour l'autonomisation des gens de mon pays, des femmes en particulier, et aussi un volet Surtout ce qui est accompagnement aussi à la souveraineté sur certaines ressources que nous on a au niveau du pays. Et j'accompagne aussi les plus jeunes dans les collèges et les lycées sur des programmes aussi que nous on a créés, parce que du coup j'ai créé une activité qui s'appelle Gestion et suivi pour Kanaky, parce que je suis aussi dans l'entrepreneuriat à cause de plein de facteurs qui font qu'aujourd'hui on n'est pas forcément à certains niveaux de développement de nos populations sur des niveaux en termes de gestion, en termes de vision juridique, enfin, en termes de vision simplement entrepreneuriale sur des niveaux d'industrie. Du coup, on est un peu sur cette thématique-là. Et la connexion avec les peuples premiers de tout horizon sur la Terre, sur la planète, on a commencé il y a déjà 6 ans, en suivant un business forum mondial des peuples autochtones. Et du coup, c'est ce qui continue à animer un peu de me dire l'émancipation, parce que par nous aussi déjà, les femmes, parce que c'est nous on élève, c'est nous on éduque, et que c'est important qu'on se rende compte aussi de nos ressources autour de chez nous déjà, avant de mener une vision qui peut aller plus loin. Mais voilà, l'autonomie souveraine déjà chez nous, elle commence par nous les mamans.
Merci beaucoup à tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut parler du mouvement féministe en Kanaky, peut-être? Est-ce qu'on dit l'héritage du mouvement, ou est-ce qu'il y a des personnalités ou des militantes qui sont importantes dans l'histoire du féminisme en Kanaky, soit au présent ou dans le passé, dont vous voulez parler aujourd'hui?
Oui, il y a beaucoup de femmes... Des femmes qui se sont levées, d'une part pour leurs droits et pour le droit de leur peuple. Moi, je commencerai par ma mère. Donc, voilà, c'est comme ça que le processus d'héritage de la lutte est enclenché. Mais sinon, au niveau du pays, il y a eu, un mouvement organisé. C'était un mouvement de femmes en lutte, des femmes kanak en lutte, qu'on appelait à l'époque le FKL, voilà, c'est ça. Avec des personnalités comme Madame Suzanne Ounei, Madame Suzanne Ounei, Dewe Gorodé, Georgina Niaoutine, pour n'en citer que celle-ci. Alors donc, elles ont commencé à s'organiser parce que politiquement, le pays se mettait en phase de revendiquer leurs droits, leur place politique. Et il y a eu la création du FLNKS, le Front National de Libération Kanak Socialiste. Et à ce moment-là, elle menait, un combat de double revendication. D'une part, en tant que femme, pour le genre, quoi, leurs droits. Et puis, d'autre part, de déconstruire un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le patriarcat au sein même de l'organisation politique qui commençait à se mettre en œuvre à ce moment-là, donc FLNKS. Donc, elles menaient un double combat et elles ont réussi, je pense, mais pas tout à fait, puisque aujourd'hui, on est encore sur ce panel-là. Et puis, donc, plus tard, il y a eu aussi Madame Bekalochi. On salue sa mémoire parce qu'elle est décédée aussi, mais c'est une femme qui était très engagée et qui nous a aussi montré une voie qui aujourd'hui nous emmène au niveau international, comme la Marche mondiale des femmes par exemple, et qui faisait partie de l'organisation Souriant Village Mélanésien dont parlait Sonia tout à l'heure. Donc oui, les femmes kanak, elles se sont levées, c'était déjà organisé pour lutter justement contre la double problématique était d'une part le colonialisme à l'intérieur desquels les organisations politiques s'organisent et que là il va falloir lutter pour que leur place soit effective, et puis de l'autre côté c'est de lutter contre ce qu'on appelle le patriarcat, mais plutôt sur les pratiques culturelles qui parfois marginalisent aussi les femmes. Donc Nous, nous sommes un petit peu les héritières, on va dire, de ces femmes qui nous ont précédées.
Oui, parce que parfois, quand on parle, et surtout dans les pays occidentaux, quand on parle des féminismes, c'est parfois de la perspective d'un féminisme colonialiste ou même impérialiste avec des personnalités blanches. C'est surtout, tu vois, quand on parle de la lutte pour les femmes, c'est vraiment pour des femmes blanches et on ignore la lutte des femmes autochtones, indigènes, noires, les femmes qui subissent d'autres formes de violence, par exemple la violence coloniale. Donc, merci beaucoup de nous avoir expliqué un peu l'histoire du féminisme en Kanaky, parce que ça, c'est une histoire qu'on n'entend pas beaucoup ici, en soi-disant Australie. Farah, tu avais mentionné des femmes comme Dewi Korode et Suzanne Onei, mais aussi les deux problématiques que vivent les femmes en Kanaky. Et j'ai lu un slogan ou une expression que j'ai lu quelque part, pas d'indépendance kanaky socialiste sans libération des femmes, ou pas de libération kanak sans libération des femmes. Donc, je me demandais si on pourrait parler un peu plus de peut-être cette tension entre ces deux luttes ou oui, ces deux luttes qui se passent simultanément. Donc, oui, est-ce que vous voyez ces deux luttes?
Je disais dans ma présentation tout à l'heure que je venais d'un mouvement féminin. Donc, c'est tout un processus qui est donc inculqué aux femmes. Je reprendrai le concept de quelques expertes en féministes, hein, pour s'auto-identifier. Donc, tout à l'heure, dans ma présentation, je disais que je venais d'un mouvement avec un concept féminin, c'est-à-dire que nous pensions notre développement à travers un système patriarcat pour valoriser le père de la femme, le père de famille, le chef d'entreprise, le chef du village, celui qui travaille dans l'administration. Tout ça pour finalement donc cautionner, renforcer un système qui nous exclut. Dans les années 80, avec la revendication d'indépendance kanak pour Kanaky, on a demandé donc les femmes féminines ont été confrontées à leurs propres démons parce que donc là il a fallu rentrer de plein fouet dans le combat pour la décolonisation et l'accès à notre libération en tant que peuple, avec justement donc une vision de la place de la femme, comment dire, je dirais pas égalitaire, mais une vision autochtone. Donc ensuite, notre génération, nous arrivons dans les années 80. Mais en même temps, c'est la transformation politique de notre pays et il faut aller vite. Vous avez entendu tout à l'heure, pas de libération sans libération des femmes. Alors, il a fallu, pour les femmes kanak des années 80, rentrer en plein dans dans la revendication des libertés. La liberté d'accéder au monde moderne avec tout ce qui comporte le secteur du monde moderne, le droit de vote, le droit à la justice, à l'avortement, à tout ça. Mais en même temps, il fallait rester autochtone. Il fallait rester autochtone, garder ce lien donc aux traditions. Et je rebondis sur cette dualité entre ces concepts de féministes. Nous, en tout cas, donc pour Kanaky, nous sommes en train de co-construire, et c'est ce qu'on essaie de faire, co-construire cette vision du féministe autochtone. Nous ne sommes pas des féministes des années 68 où on revendique toutes ces libertés, on veut transformer notre société. Ce n'est pas du tout. On veut faire reculer le système patriarcat qui déséquilibre les rapports entre les sexes dans la société traditionnelle et qui, qui met en péril l'accès aux libertés de femmes en tant qu'être humain. Vaste chantier, beaucoup de controverses. Si vous voulez être trop libre, vous cassez l'organisation sociale parce que c'est très hiérarchisé, c'est très ordonné. Et comme il y a eu beaucoup d'apports du colonialisme à l'intérieur, plus la religion, du coup, il faut tout déconstruire, tout remettre, chaque chose à sa place. Voilà.
Merci. Et ça, c'est quelque chose qu'on ignore souvent quand on parle des inégalités entre les femmes et les hommes, surtout dans les pays colonisés. On ignore toujours les impacts de colonisation et on ne peut pas parler seulement du c'est patriarcat. Oui, sans colonisation et le rôle continu de l'État français aussi. Et donc, peut-être on peut parler de ça, l'État français, la colonisation française et le rôle de tout ça dans la lutte pour les femmes. Donc, Doriane, Marie-Claire, est-ce que vous pouvez parler des impacts continus de colonialisme?
Je vais peut-être revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Bon, quand on veut parler de féminisme et de différence entre le féminisme occidental, qu'on va parler de féministe blanc bourgeois qui va s'attaquer plus aux questions de parité, de représentation homme-femme, par rapport au féminisme décolonial ou au féminisme autochtone qu'on essaye de construire, qui va aller plus au fond dans les questions d'égalité d'accès aux soins, d'égalité d'accès à l'emploi, d'égalité de reconnaissance identitaire, simplement. Qu'est-ce que l'État français a ? Quels sont les impacts de l'État français ? On va dire qu'aujourd'hui, on sort d'un processus de décolonisation dans lequel la représentation du monde kanak est portée par une institution qui porte tous les stéréotypes racistes coloniaux. Donc, on est représenté dans le monde entier, puisque le processus est défendu comme un processus novateur dans le droit international, par une institution à l'intérieur de laquelle il n'y a pas de femmes. Alors que, dans le monde coutumier, nous sommes représentés. Nous avons une voix à l'intérieur des espaces de décision, mais on a été écrasés par le patriarcat colonial et le patriarcat religieux qui ont effacé et détruit toutes les relations hommes-femmes en interclanique ou qui existait auparavant. Tout est déséquilibré. Alors que dans la société kanak, on est censé toujours rechercher l'équilibre entre toutes choses, et visibles et invisibles. Donc la représentation qu'on a aujourd'hui au niveau politique, je vais dire plutôt au niveau institutionnel, elle est complètement coloniale. C'est ça le colonialisme aujourd'hui, c'est ça la force des États impérialistes tels que la France, c'est de continuer de mettre en place des dispositifs qui vont toujours nous maintenir dans une position de dépendance, puisque l'institution en place a une voix consultative. Le grand chef qui est ici avec nous aujourd'hui, il a dit hier que sur les 30 propositions de loi qui ont été défendues par cette institution qui est censée nous représenter, il n'y en a que 3 qui ont été adoptées en 30 ans. Donc c'est pour dire à quel point on n'a pas de voix, même à l'intérieur d'un processus dit de décolonisation. Mais c'est l'impact et c'est la continuité d'un colonialisme qui perdure aujourd'hui et que nous aussi, on porte encore. Parce que c'est pas facile aujourd'hui de dire que la société kanak n'est pas une société patriarcale. Et je vais peut-être me permettre d'ajouter, si tu permets, qu'on a deux quand même, parmi les leaders féministes du pays, on en a deux ici aujourd'hui. Donc elles le diront jamais, mais je vais le dire. Et donc, voilà, c'est la vision qu'on porte, c'est la vision féministe décoloniale et féministe autochtone de prendre un temps pour regarder ce qui nous appartient dans toutes les conceptions du monde et dans toutes nos intersectionnalités, ce qui nous appartient, ce qui appartient aux religieux, ce qui appartient au colonial, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir de nos filles et de nos fils? Pour construire un monde dans lequel on puisse vivre chacun et chacune.
Et si on parle du futur d'une Kanaki qui co-construise par le peuple Kanak, qu'est-ce que vous avez comme vision? Qu'est-ce que vous voyez si on pense au futur?
Je vais donner juste un bout de réponse vis-à-vis des chantiers aussi qu'on mène là depuis 10 ans. C'est que, comme là, Dorian, elle l'évoque, c'est déjà de savoir qui tu es pour savoir où tu veux aller. Et c'est ce que la colonisation, en fait, a beaucoup détruit dans nos clans, dans nos familles respectives. Parce que c'est un processus qu'il faut se réapproprier déjà. Et c'est un peu le travail que chacune d'entre nous, là, autour de la table, on fait là où on œuvre. C'est déjà que les personnes, elles se sentent libres là où elles sont déjà. Et à savoir, chaque nom est lié à la terre chez nous. Donc, si tu sais d'où tu viens, quand je dis d'où tu viens, c'est vraiment de savoir dans ta lignée comment tu es arrivé là. Tout à l'heure, Sonia, elle évoquait par rapport à sa famille, comment ça s'est passé. C'est que chacun d'entre nous, on a une histoire qui nous est propre et qu'on ne peut pas raconter forcément comme ça sans avoir demandé aussi la permission. C'est aussi peut-être le patriarcat qui fait ça. Peut-être qu'on est aussi encore dans ces ancrages-là. Mais c'est de savoir où on est, ou qu'est-ce qu'on veut et où est-ce qu'on va aller. Après, l'autre vision que moi, je porte aussi là-dessus, c'est des personnes qui veulent mener en fait aussi des combats. Il faut être bien dans sa tête, bien dans son corps. Donc, ça veut dire aussi que, tout à l'heure, je parlais moi d'autonomisation alimentaire, parce que c'est aussi on est une île, donc beaucoup d'importations, beaucoup de... Donc ça aussi, c'est un travail sur lequel, tout à l'heure, quand je parlais des ressources aussi qu'on a autour de chez nous, chacun déjà, chacun, chacune, c'est aussi de faire aussi avec ça. Là, tout ce qu'on parle en termes de souveraineté alimentaire, parce que pour être bien, c'est aussi ce qu'on met dans notre corps, qui est important. Un peu la vision que je donne aussi, moi, sur le volet entrepreneurial, c'est que pour développer un pays, il faut de l'économie. Et l'économie, elle passe par ça, c'est que le business autochtone aussi, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le féminisme décolonial autochtone, c'est de se le réapproprier pour nous avec une vision qui nous est propre. Pas capitalistique forcément, mais où tu prends ce qui est bon, ce qui n'est pas bien, en fait, dans le monde dans lequel, suivant les macro, micro-économies, comment on peut évoluer parce qu'on est une île, on reste toujours aussi sur ce gros focus-là, c'est qu'on est une île, donc on est toujours dépendant aussi des autres, malgré tout. Mais il y a des choses où on peut œuvrer. Et c'est cette capacité-là aussi que, moi, dans mes formations, je redonne un peu aux gens du sens à ce qu'ils font déjà, parce que souvent, certains se dévalorisent. Parce qu'on a aussi pas une dualité maintenant, mais entre quelqu'un qui œuvre à la tribu et quelqu'un qui a un travail ou qui est dans un bureau. Donc, de valoriser, en fait, les personnes à chaque niveau aussi. Parce que on a besoin, c'est complémentaire. Tout est complémentaire parce que la personne qui reste à la tribu, c'est elle qui continue à faire vivre le lien aussi. Les coutumes, les us qu'on a habituellement, le travail qui se fait à la maison. Donc ça aussi, c'est important et c'est ce que nous, on essaie de lier un peu dans le modèle qu'on est en train de... Voilà, c'est en plein chantier, mais c'est que c'est se réapproprier déjà ce qui tu es déjà, c'est là. C'est le premier niveau. Qui tu es, comment tu veux envisager ta vision, tout ça, voilà. Le tout dans le un et le un dans le tout, parce que c'est aussi ce que nous, on porte aussi dans notre... Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Donc, une dernière question. Peut-être on peut retourner à la terre, la connexion, les relations entre les communautés autochtones avec leur terre, la responsabilité qu'on a envers la terre, parce que quand on parle de colonialisme, c'est toujours l'exploitation de la terre, spoliation de la terre aussi, dont vous avez parlé. Donc, peut-être s'il y a une problématique ou un problème ou quelque chose qui vous tient au cœur à propos de la terre, peut-être chacune de vous peut partager quelques mots.
Oui, vis-à-vis de la terre, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de l'espace où on se situe, vis-à-vis de notre façon de voir le monde, d'habiter le monde. Et c'est ça la vision Kanak. Enfin, c'est même pas une vision, c'est une réalité que nous vivons depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, même si on est dans une grande ville comme Melbourne. Nous sommes habités par ce, voilà, par cette, cet environnement spatial, spirituel, que nous ont inculqué dès notre enfance. Donc la colonisation a fait que nous ne nous regardons plus comme des personnes belles. Nous recherchons notre beauté qui a été effacée par la colonisation. Parce que des modèles extérieurs sont venus nous dire que, on n'est pas, que notre monde n'est pas beau, que nous ne sommes pas de belles personnes, que nous ne sommes pas... voilà, que c'est, on n'a pas le faciès qu'il faut. Donc aujourd'hui, je pense que c'est aussi un combat de se réapproprier cette beauté, qui est donc qu'on appelle la beauté kanak. Hein. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'une fleur à l'oreille, c'est ça qui fait qu'on est différent de l'occidental. Qui, elle, va porter peut-être des hauts talents, et pourquoi pas, mais nous sommes aussi en, comment dire ça, en valorisation de qui nous sommes avec notre propre façon d'habiter, de voir le monde. Et aussi de continuer, parce que nous sommes des gens de relations, donc on est sans arrêt en recherche de relations, et notre monde, il est ainsi. Relation et beauté, et c'est ce qui nous emmène aujourd'hui, c'est grâce à la façon d'être de qui nous sommes, d'être toujours en recherche de relations. Donc là, on est sur une arme, mais on peut être ailleurs, mais toujours avec notre identité et notre beauté de beauté kanak.
Je vais peut-être faire une petite réflexion qu'on n'a pas eue souvent entre nous, mais ça me semble nécessaire de la poser ici. Le lien à la terre... Chaque peuple autochtone de ce monde a été obligé de se poser la question par rapport à un colonisateur. À partir du moment où il y a un colonisateur qui a dit « Ici, c'est chez moi et toi, tu es comme ceci, toi et tu es comme cela », nous, on a dû, ou plutôt nos ancêtres ont dû se lever pour dire « Non, cette terre-là n'est pas la tienne, elle ne t'appartient pas et nous, on est les gardiens de cette terre ». On en est les gardiens, ça ne veut pas dire qu'elle nous appartient. Ça veut dire qu'on a une responsabilité, comme tu dis. Mais on a dû, pour pouvoir défendre cette terre, dire aussi qu'elle nous appartient. Et chaque peuple autochtone aujourd'hui se positionne comme ça. Mais dans les récits originels des mouvements de population de chacun de nos clans, on dit, ah, mais il y a deux frères, ils sont descendus comme ça, ils ont marché, il y a un qui s'est arrêté ici, puis il a fait cette famille-là. Le deuxième, il a continué, il s'est arrêté aussi, il a fait cette famille-là. Et c'est de là que je viens, c'est de là que je viens. Le lien à la terre, c'est aussi de décoloniser la conception de la possession qu'on a à cette terre. On est obligé aujourd'hui, pour pouvoir défendre nos peuples, de dire que c'est chez nous. Mais ce n'est pas pour exclure les autres. Nos peuples sont liés par la mer. Et c'est pour ça que quand on arrive, on rencontre les femmes de Mabo, on se reconnaît. On reconnaît les traits des visages de chez nous. Quand on va à Fidji, c'est pareil. Mais... Je pense que le lien à la terre, on en parle énormément parce qu'on y est. On en y est forcé, on n'a pas le choix, on est obligé. Mais on a une autre conception du lien à la terre.
Vous avez écouté Farah Kayar, Sonia Tonia, Doriane Nomora et Marie-Claire Caicho, originaires de Kanaki. Un grand merci à Doriane pour son aide concernant l'autographe et la prononciation des mots kanak, ainsi que pour avoir suggéré la chanson qui a accompagné cet épisode « Tai Vi Kaneka » de Vamalé. Je tiens également à adresser mes sincères remerciements à Free Kanaki Solidarity Now. Vous pouvez les suivre sur Instagram à l'adresse @freekanakisolidarity.nam. C'est tout pour notre programme Women on the Line aujourd'hui. Nous serions ravis de recevoir vos commentaires ou vos réflexions sur l'émission. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer un email à womenontheline@gmail.com ou à nous appeler à 3CR au 03 94 19 83 77. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram et Facebook. Women on the Line est une émission radicale et intersectionnelle d'actualité. Elle est produite et présentée par des femmes et des personnes de genre divers de 3CR à Nam, Melbourne, et diffusée dans toute l'Australie sur le Community Radio Network grâce au soutien financier de la Community Broadcasting Foundation. La musique de Women on the Line est composée par Ripley Cavara. Toutes les émissions de notre programme peuvent être téléchargées sur 3cr.org.au/womenontheline. Je m'appelle Phuong Tran. Soyez à l'écoute la semaine prochaine sur votre station de radio communautaire pour écouter Women on the Line.